no.
Say yes or no. Yes or no.
Yes or no, c'est simple comme oui ou non. La question du jour, la question que nous vous posions hier était la suivante. La guerre en Israël modifie-t-elle vos priorités dans la vie? Alors Lise, est-ce que nos auditeurs ont tranché la question?
Absolument Didier, c'est un oui assez franc et massif, 75% de oui sur Insta et sur Facebook pour seulement 25% de non et 67% de oui sur X. Donc on est aux trois quarts de nos auditeurs qui pensent que oui, la guerre en Israël modifie les priorités dans la vie. On va demander son avis à notre invité Raphaël Jérusalemi, bonjour.
Bonjour.
Écrivain, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la guerre en Israël, ça modifie vos priorités dans la vie?
Les miennes, peut-être, dans la mesure où je pense qu'on est tous braqués sur la priorité de la libération des otages, quelque chose à laquelle on n'aurait jamais pensé dans nos pires cauchemars. D'un autre côté, je ne sais pas si les priorités ont tellement changé, parce que lorsqu'on regarde la société israélienne d'aujourd'hui, malgré la guerre, il y a une division du peuple israélien qui demeure. Les tensions n'ont pas diminué, c'est-à-dire ce qui est regrettable, en plus de toutes les autres choses de la guerre, c'est qu'il n'y a pas eu cette fois-ci d'union nationale au plan politique, mais aussi d'union fraternelle parmi les Israéliens. Et que les divisions et les tensions sont demeurées même durant la guerre, c'est-à-dire entre la gauche et la droite, les religieux, les laïcs, etc. Et ça, c'est extrêmement regrettable. Ça a été évidemment attisé, malheureusement, par le débat politique, qui a été tout le long un débat violent. Il n'y a pas eu d'union nationale, mais dans la rue israélienne, il n'y a pas cette unité-là. Il y a bien sûr une unité qui reste plus ou moins malgré tout. Si on met à part les ultra-orthodoxes, c'est le soutien aux soldats de Tsahal, que l'on soit de gauche, de droite, juif ou arabe, il y a un soutien à ceux qui combattent sur le front pour protéger le pays, mais dans l'ensemble, les tensions, les divergences demeurent, et c'est un petit peu dommage. En tous les cas, en temps de guerre, on aurait dû mettre la hache de guerre de côté, justement, entre guillemets, ce n'est pas arrivé. Sur le plan des autres priorités, je pense qu'elles demeurent les mêmes malheureusement parce que ce qui va marquer l'année 2025, en tous les cas à ses débuts, c'est une augmentation très très importante du coût de la vie. Et je pense que le portefeuille va demeurer la priorité, le souci prioritaire de l'Israélien moyen.
Et en ce qui concerne les Juifs de diaspora, Raphaël Jérusalemi, est-ce que vous avez l'impression également que cette guerre en Israël, elle a changé leurs priorités dans la vie?
Oui, malheureusement pour eux, c'est surtout l'antisémitisme qui a découlé de cette guerre. Mais peut-être qu'il y a ici quelque chose de plus positif. On a parlé de désunion dans la société israélienne. Là, par contre, il y a un écart qui commençait à se creuser de plus en plus entre Israël et la diaspora, qui a été fermé d'un seul coup. D'un seul coup, Israël et la diaspora sont solidaires, sont dans le même bateau, sont dans un même combat face à la haine du juif, que le juif soit juif en diaspora ou qu'il le soit en Israël. Ça, c'est donc une union qui s'est créée, avec évidemment pour les juifs de diaspora, le grand point d'interrogation, rester ou partir.
Effectivement, on a ressenti beaucoup cette solidarité. Raphaël Jérusalemi, vous qui êtes ancien officier des renseignements militaires, la chaîne israélienne 12 dévoilait hier soir l'infiltration numérique du Hamas dans les systèmes de sécurité israéliens qui visiblement datait de bien avant les attaques du 7 octobre 2023. Notamment, les terroristes avaient accès aux caméras de surveillance des villes comme Sderot ou Ashkelon ou Beersheba. Est-ce que ça n'est pas extrêmement étonnant, cette faillite du système de cybersécurité israélien alors qu'il était réputé dans le monde entier?
Oui et non, parce qu'on parle en fait, comme vous le dites, de caméras municipales, donc on ne parle pas de zones stratégiques. Le fait qu'on puisse pénétrer dans le système Internet informatique d'une mairie ou d'une boîte privée n'est pas tellement inquiétant. Ça aurait été plus inquiétant si on avait pénétré, et ça a failli arriver plusieurs fois, les systèmes informatiques du ministère de la Défense. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on dit les hackers du Hamas, c'est des hackers qui sont aussi à Téhéran ou à New York. Vous avez dans le groupe Anonymous des sympathisants pro-palestiniens, vous avez en Iran des centaines de hackers payés par le gouvernement pour s'en prendre aux intérêts informatiques israéliens. Donc Israël est sans arrêt sous des attaques cyber, jour après jour. On essaie de pénétrer dans le système bancaire, de voler des identités, disons, de citoyens israéliens. Donc c'est sans cesse. Il y a malheureusement ici et là des zones où c'est plus facile effectivement de pénétrer.
De la même façon qu'on attend tout de même des résultats de l'enquête sur toutes ces failles sécuritaires du 7 octobre, est-ce que ça devrait changer complètement la façon dont on se prépare, on continue cette guerre et on se prépare aux suivantes, ou c'est simplement réparer des erreurs mais la stratégie est la bonne, Raphaël Jérusalemi?
La stratégie est la bonne. En cyber, je rappelle que ce sont quand même les Israéliens qui tiennent le haut du pavé. Hein. Ce sont eux qui sont capables, justement, à l'inverse, hein, de pénétrer les systèmes informatiques extrêmement sensibles de l'ennemi, inclut le programme nucléaire iranien, comme il avait fait avec les Américains, et le bug, le virus Stuxnet. Donc, c'est les Israéliens qui sont les plus forts. Là où il faut faire très attention, c'est que d'un côté, ça va devenir l'armée la plus redoutable du monde pour la raison simple qu'elle est la première des armées au monde à exploiter à fond l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est en train de donner un avantage encore plus important de Tsahal sur le plan technologique sur ses ennemis, mais avec l'avertissement que nous avons reçu le 7 octobre, attention, la technologie, n'oublions pas les humains, n'oublions pas l'intuition humaine, l'œil humain, comme ça a été le cas le 7 octobre, on n'a pas écouté les soldats qui observaient la bande de Gaza, on n'a pas écouté certains soldats sur le terrain, et on a fait trop confiance justement à la technologie, bien que elle nous assure, comme je l'ai dit, une supériorité, puisque nous n'avons pas une supériorité en nombre, nous avons une supériorité sur ce plan-là, sur notre ennemi.
Alors, au nord, le chef d'état-major de Tsahal avait l'air de dire que le Hezbollah avait été vaincu, hein, et que les habitants du nord allaient pouvoir rentrer chez eux. Donc, de ce côté-là, on peut considérer que l'objectif de la guerre serait atteint. En revanche, alors qu'on avait l'impression qu'à Gaza, c'était bientôt le cas aussi, l'armée israélienne a déclaré pas plus tard qu'hier qu'elle avait encore tué une centaine de terroristes du Hamas à Jabalia. On a encore perdu un soldat et 3 autres blessés. Ça fait déjà 4 fois, Raphaël Jérusalemi, qu'on revient à Jabalia.
Oui, et à chaque fois, effectivement, nous avons en fait, il faut bien comprendre maintenant, avec le temps qui passe, au noyau dur, aux terroristes les plus coriaces, les plus fanatiques, qui ne désarmeront pas, qui préfèrent donc mourir plutôt que de se rendre aux Israéliens ou d'accepter un accord avec les Israéliens. Et donc, il y a ce noyau dur dont le frère de Yahya Sinwar, qui est toujours vivant et qui sévit dans les tunnels de Gaza. La véritable raison n'est malheureusement pas militaire. C'est-à-dire, c'est vrai que sur le plan militaire, il y a encore du travail à faire, mais le véritable problème, c'est que les acquis militaires n'ont pas été consolidés par une décision aux politiques de remplacer le Hamas par un autre régime qui prendrait le contrôle de Gaza. On n'a donc pas capitalisé sur cette victoire contre la branche militaire du Hamas parce qu'on n'a pas non plus, on s'est pas occupé de la branche administrative et politique, et on a laissé en place en fait les terroristes à col blanc du Hamas dans Gaza. On en veut pour preuve qu'on vient d'arrêter les directeurs d'un hôpital justement dans le nord de Gaza. Ces directeurs d'hôpitaux sont tous affiliés au Hamas. Il en va de même pour les postes clés de l'administration de la bande de Gaza. Et ça, c'est un problème qui n'est plus militaire, mais c'est un manque de décision ou de vision au niveau gouvernemental israélien qui n'a pas donné une directive claire et nette de ce qu'on fait de la bande de Gaza une fois qu'on a éliminé les terroristes et qui remplace le Hamas pour prendre le contrôle de cette zone extrêmement explosive.
Mais est-ce qu'on peut passer justement à cette deuxième étape de s'attaquer au Hamas politique alors que les otages sont toujours détenus dans la bande de Gaza?
C'est une raison de plus, justement, parce que il faut absolument affaiblir le Hamas qui se sente acculé et obligé pour son ultime survie, pour ce qu'il en reste, d'échanger les otages. Aujourd'hui, le Hamas ne se considère pas du tout comme vaincu. Le Hamas considère qu'il peut encore s'en sortir, qu'il peut recevoir de l'aide encore de l'Iran, du Qatar. On n'a pas donné, on a donné peut-être sur le plan militaire cette impression à la branche armée, mais en ce qui concerne les politiciens, regardez les dirigeants du Hamas à l'étranger qui se pavanent dans les palaces d'Istanbul et de Doha, ils n'ont pas du tout l'air vaincus. Ils se fichent complètement de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Ils se fichent complètement des combattants terroristes qu'ils ont perdus. Tant que eux sont là, ils considèrent qu'ils peuvent encore nuire à Israël. Et donc, nous n'avons pas terminé le travail, malheureusement, avec le Hamas, loin de là. Et partout où Tsahal se retire pour aller justement ailleurs, pour monter par exemple vers Djebalia, eh bien aussitôt derrière, les gens du Hamas reviennent et reprennent leur position.
Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal, d'avoir été avec nous pour cette analyse ce matin. Bonne journée à vous, à très bientôt.
Bonne journée.